Don't you know it's the boy Dash all the way from Grenada and he tuned into C-Cut 90.3 FM.
My baby left me, my mule got lame. Lost my money in a poker game. A windstorm came just the other day. Blew the house that I lived in away. I'm having so much trouble. So much trouble. So much trouble. I'm about to lose my mind. Started selling whiskey, wine, and gin. They called me last week and last night again. Now the sheriff he comes in sight. Walked through my house and got me shooting dice. I'm having so much trouble. So much trouble. So much trouble, I'm about to lose my mind. Carried me away, my pajamas on. I even hate that I was born. They left me out and I go across town. Couldn't find my baby, she'd put me down. I'm having so much trouble. So much trouble. So much trouble, I'm about to lose my mind. My bed, my hard luck, my horse, and yet I go cross town after close my door. Even landlady changed the lock on the door. I'm having so much trouble, so much trouble, so much trouble. I'm about to lose my mind. But I was ashamed. Got a job on the city pay. Late one morning, laid me off that day. So much trouble. So much trouble. So much trouble. I'm about to lose my mind. In a poker game, a windstorm came just the other day. I blew the house that I lived in away. I'm having so much trouble. So much trouble. So much trouble. I'm about to lose my mind. Trouble, trouble, trouble.
Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Bonjour tout le monde. Bon début de semaine, bon matin.
Bon lundi.
Bonjour Marc-André, comment vas-tu?
Je vais très bien, mais comme le disait George Thorogood, we're trouble. On va faire du trouble aujourd'hui.
Pelle. Attachez vos trucs avec la
du
broche.
Du blues, du rock, du metal, du hip-hop, name it, ça va rocker comme on aime ça. C'était l'unique, l'incomparable George Thorogood and the Destroyers sur le vinyle Move It On Over. Move It On Over. Blues Rock sur Attic, une parution, un pressage canadien de 1978 que j'ai payé pour la modique somme de
5 piastres. Bravo Marc-André, 5 $ pour un album de George Thorogood.
Il est dur c'est à ça? Dire, hein, le matin. Ouais.
Thorogood. Et les Destructeurs.
Et les Destructeurs. Juste le nom, moi, j'adore. Fait que George et sa vocale, sa guitare. Il y a Jeff Simon on drums. Il y a Billy Blow on bass. Power trio de blues. Influencé par les Chuck Berry, Mr. Rock'n'Roll himself, Bo Diddley, John Lee Hooker.
Oui. Effectivement. Puis George Thorogood, moi, je connais pas grand-chose sur cet artiste-là.
Oui, c'est difficile à dire. Ce matin, il faut
mais, ouais. On a souvent entendu la pièce Bad to the Bone.
Yes, dans tous les films.
C'est
aussi.
Lui, hein,
ouais,
ça?
C'est lui, ouais.
Le responsable de cette chanson-là qu'on a vue dans beaucoup de films américain.
Presque d'enfant, tu sais, comme Dennis de Menace.
C'est exactement ça que j'avais en tête, moi aussi. Ou même l'autre film, Problem Child. Je crois que ça joue là-dedans. Bad to the Bone.
Ouais. Bref, Problem Child, c'est avec John Ritter de The Three's Company qui fait le père.
Oui, ouais. Exactement.
Ben, Bad to the Bone, c'est ça. C'est la toune en thème là, d'un petit cul rebelle là, qui veut tout briser, tout casser.
Ah, est-ce que c'est aussi George Thorogood qui reprend la pièce de John Lee Hooker, yes. One Bourbon, One Scotch, One Beer. C'est lui, ça?
Oui.
OK.
Oui, la version originale, mais t'es bon. Hey, pour quelqu'un qui ne savait pas, là, c'est même pas arrangé avec le gars des vues, tu vois. Il n'y a pas plus
de gars des vues, ici.
Ben, c'est toi le gars des vues.
On a des deux gars de radio.
On est deux gars de radio, OK. On aime les vues.
Oui.
Puis, c'est ça. Ben, que dire de Georgie pour les intimes?
Il a repris John Lee Hooker.
Oui, il a pris, merci. Il a repris John Lee Hooker, que sa version est acoustique. Il est tout seul à guitare, puis elle n'est pas électrifiée, là, si on peut dire. Là. Okay. Elle est presque semi-acoustique. Lui, là, il a mis la partie électrique, puis il en a fait un thème. Il se l'a réapproprié. Elle est plus longue. C'est son gros hit, puis c'est une cover.
Ouais.
Fait que l'homme blanc.
C'est l'histoire du.
L'homme blanc qui exploite le bluesman noir.
Ça résume un peu l'histoire du rock'n'roll.
Du rock'n'roll. Elvis qui vole Chuck Berry et tous les autres.
Exactement.
Little Richard.
Hey, d'ailleurs, parenthèse rapide, je t'interromps.
Yeah.
Il y a eu un film sur Elvis qui est sorti.
Tu l'as vu?
Non.
Tu m'as pas entendu?
Ben, je l'ai. Ouais.
On a déjà parlé.
Oh, mais on l'a pas vu.
Non, je n'ai pas été au cinéma encore.
Moi non plus, je ne l'ai pas vu.
Non, moi,
on n'a pas fait nos devoirs, là.
Ben non, c'est vrai.
On a promis ça à nos auditeurs.
Ouais, c'est vrai.
Nos 8 auditeurs qui nous écoutent. Salut les gars.
Ouais. Et les filles. Mais... Voir Tom Hanks en Colonel Sanders, Colonel Parker.
Mais là, on a-tu passé tout droit? On a-tu manqué ça?
Non, mais là, je sais qu'il était au cinéma, mais moi, avec les festivals, les salles de cinéma, j'ai pas eu le temps.
Entre deux sessions de bronzage, j'avais pas le temps d'aller au cinéma. Mais s'il y a des gens à la maison qui nous écoutent, qui ont vu le film, écrivez-nous.
Ouais.
Dites-nous comment c'était bon ou pas bon, le film Elvis.
Ouais.
On est curieux.
Ouais.
Parce que l'histoire du rock, ça nous intéresse.
Ouais.
Et surtout,
la fondation.
Cette partie-là de l'histoire.
Ouais. Mais non, ces temps-ci, je suis dans un trip blues parce que j'ai tout le temps aimé George, j'ai tout le temps aimé aussi Jimmy Ray Vaughan, SRV. Stevie Ray Vaughan et les frères Vaughan. Mais je suis en train d'écouter un documentaire que je n'ai pas fini, qui est un peu un biopic. C'est pas super bon, mais ça m'a redonné le goût de plonger dans sa musique à Stevie Ray Vaughan, mais aussi à George, qui c'est son penchant, si on peut le dire. Les deux, c'est des power trios. C'est des guitar heroes accompagnés d'un bassiste et d'un drummer. Dans le cas de Stevie Ray Vaughan, il y avait aussi un claviériste qui l'accompagnait, mais c'est des bêtes de scène. Moi, c'est le seul spectacle que j'ai vu dans les dernières années avec mon père au Metropolis. J'avais donné ça comme cadeau de fête. Il y a ça dans son cabanon. Le billet, il l'a comme dans la porte. Il est fier. C'est comme un statement. Puis on y avait été les deux, puis on avait pris une coupe de bière, naturellement. Puis au spectacle, c'était le fun. Moi, c'est la première fois que je le voyais, même si j'étais un fan depuis longtemps. Et il y avait vraiment comme du monde qui servait le fameux One Bourbon, One Scotch, One Beer.
OK.
C'est comme un spécial, là, admettons. Un chiffre, là, 20$, ben, t'as le trio, le trio d'alcool.
Ah, wow!
Enfin, on avait bu pas mal de bière, puis on avait. J'ai vu des shows, on va dire, pas mal plus relax avec mon père. Mais un show entre boys rock'n'roll, c'est ça. J'ai donné ça comme cadeau de fête, puis il avait bien apprécié. Puis je pense s'il y avait Stevie Ray Vaughan encore vivant aujourd'hui, ça serait le genre de show que je pourrais comme lui payer, puis tu sais, il choquerait pas. Fait que,
ah, wow!
Ouais. Ouais,
c'est presque touchant.
C'est presque une tranche de vie. Sortez vos Kleenex.
C'est une tranche de vie.
C'est une tranche de vie.
Mais sans blague, c'est
non,
cool.
Non, mais il donne un bon show. C'est comme le James Brown, George Thorogood, c'est qu'il meurt sur stage, puis il revit, il est ressuscité par les autres musiciens.
Ouais.
Puis des fois, en show même, comme je dis, c'est un power trio, encore là, il y a souvent un musicien invité qui est un saxophoniste. Puis, tu sais, George n'est plus jeune non plus, mais tu sais, il est le feu sacré pour le rock and roll. Je sais pas si je retournerai le voir parce que c'est une recette. J'avais parlé à
aujourd'hui.
C'est pas mal, tu sais, comme un 55 minutes bien tapé avec les deux tunes qu'on a nommées. Les plus connues, c'est sûr qu'ils sont là. Puis tout. Puis il fait tout le temps une cover de Chuck Berry, généralement. Mais anyway, c'est du bon blues. Une fois de temps en temps, du blues, c'est le fun. Puis surtout en vinyle, quand tu découvres ça, tu peux pas te tromper. Si vous voyez un George Thorogood à 5$, là, puis il est pas magané, sautez dessus. Puis si vous n'aimez pas ça, je vais vous donner 10$.
Comme pour... littéralement, ouais, sauter dessus.
Sauter dessus.
Ouais.
Puis même en spectacle, c'est le fun.
Sauter sur lui,
ouais.
Sur scène.
Sur scène.
Il est capable de vous attraper.
Ouais.
Il est capable de faire, il multitask. Hein? Il joue un solo de guitare, en même temps, il attrape des spectateurs qui sautent sur lui.
Je te dare. je dare le spectateur.
OK. Bon, on déconne. On continue.
Tu me fais tousser, là, c'est le matin.
Bon, vas-y, avec une bonne toussade.
Une bonne toussade. Ouais. Hey, tu voulais me parler du... Ben, on va vous parler de cinéma, de bande dessinée et d'exposition. Et je te laisse le micro pour une expo.
Oh, on en parle maintenant.
Mexicaine.
J'étais pas prêt. Ben là, écoute.
Mais oui. Je vais au moins l'introduire pendant que tu cherches.
Non, c'est beau, c'est beau, ouais. C'est beau. Je suis allé voir avec ma bien-aimée l'exposition sur Frida Kahlo, La vie d'une icône. C'était à l'Arsenal, à Montréal, galerie d'art contemporaine dans le sud-ouest de Montréal,
okay.
Ou dans Griffintown, bref. Super belle exposition. Écoute, comment résumer ça? C'est vraiment une exposition qui parle de la vie de Frida Kahlo. Et il n'y a aucune œuvre de Frida Kahlo qui est exposée dans cette. Qui est présentée dans l'exposition.
Mais qui est Frida Kahlo?
Donc, c'est une grande artiste mexicaine qui est née, je crois, en 1907 ou 1910, presque en même temps que la Révolution mexicaine, et qui a vécu dans les années. Qui est décédée dans les années 50, si ma mémoire est bonne. Et qui a vraiment été majeur dans l'art, dans la scène artistique mexicaine, mais aussi...
culturelle et sociale.
Ben, dans la culture populaire, qui était une militante engagée, communiste, vraiment à l'os, jusqu'à toute sa vie, en fait.
Ami avec Léon Trotsky.
Oui, c'est ça, exactement, Léon Trotsky.
Même amante, peut-être.
Le russe révolutionnaire.
Qui s'est exilé au Mexique. Comme
c'est ça, qui était poursuivi par, je ne connais pas l'histoire complète, mais par Staline ou Lénine, je ne m'en souviens plus. Là.
Exact.
Et qui s'est fait assassiner, je crois, au Mexique aussi, sauf erreur. Ouais. Bref, l'exposition, je vais vous lire le résumé, là, vite fait comme ça. Une exposition innovante vous permettra d'explorer la biographie de Frida Kahlo au moyen d'un assortissement de photos d'archives, de films originaux, d'environnements numériques, d'installations artistiques, de pièces de collection et de nouvelles pièces musicales qui reconstitue les moments les plus importants de la vie de l'artiste, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir l'histoire incroyable à la source du mythe. La biographie immersive de Frida Kahlo est présentée sans reproduction des œuvres de l'artiste dans le but de plonger plus en avant dans les nouveaux langages immersifs, c'est-à-dire des installations multimédia. Donc, on arrive là avec une longue introduction. En fait, d'abord... Je ne vais pas tout spoiler parce qu'il y a des belles choses à découvrir, mais l'exposition commence avec un hôtel de la célébration traditionnelle du jour de la mort. Donc,
Del
Día de los Muertos.
Yeah.
Donc, l'hôtel que les gens, la plupart des gens, la tradition, c'est que dans la maison, on a un hôtel avec des
offrandes.
C'est ça. Donc, des offrandes, des bougies, des fleurs, des décorations, des fruits, des bonbons. Et des portraits des morts, des gens perdus dans la famille. Et à chaque année, c'est ce qu'on fait. On fait une nouvelle offrande, des nouvelles offrandes comme ça. Donc, ça se fait dans la maison, mais aussi après, t'en sais plus que moi, il y a aussi des cérémonies qui se font dans les cimetières aussi, à l'extérieur. Donc, l'exposition commence avec ça. Et évidemment, Frida Kahlo, elle est décédée. Donc là, on célèbre Frida Kahlo avec un beau portrait d'elle. Et après ça, on nous donne beaucoup d'informations sur sa vie. Donc, beaucoup de lectures au début de l'exposition. Et par la suite, c'est séparé en plusieurs salles. Dans chaque salle, il y a une installation multimédia. Donc, des projections vidéo, du mapping, des projections interactives. Une grande salle avec une méga projection 360 et même sur le plancher. Donc, avec plusieurs informations qui, dans le fond, on revit la vie au complet. Donc, son, de sa naissance, de ses voyages aux États-Unis avec Diego Rivera, qui était d'ailleurs, en fait, c'est ça, c'est que Frida Kahlo s'est mariée avec cet autre grand artiste mexicain qui était un grand muraliste, qui était déjà réputé, qui était déjà connu à l'international lors de son mariage, mais Frida, elle, n'était pas encore connue à l'extérieur du Mexique. Et même au Mexique, je crois qu'elle n'était peut-être pas tant connue. Et c'est un peu grâce à Diego Rivera qu'elle a pu frayer son chemin parce que, bon, elle était avec lui, elle rencontrait toutes les gens qui étaient intéressés. Puis, à travers ses voyages aussi à l'extérieur, dont aux États-Unis dans les années 30, je crois, elle a fait plusieurs bonnes rencontres. Elle a eu des amants aussi. Ouais. Parce qu'il faut dire qu'il y a aussi...
Les deux ont eu des
Diego
amants.
Diego Rivera a trompé de nombreuses fois Frida Kahlo. Et vraiment, c'est super touchant parce que vraiment, dans l'exposition, on met l'accent sur les événements marquants pour elle. Ouais. Et l'événement marquant pour elle, c'est vraiment son accident en autobus. Si je mets ma mémoire
est
bonne.
Tramway, je pense que c'est un
tramway. Autobus. Ouais. Qui, en temps normal, elle serait morte, mais elle a survécu. Elle a eu vraiment un accident très grave où elle a eu plein de fractures aux jambes, aux côtes, aux bras. Bref. Elle a souffert de ça toute sa vie. Et ce qui est arrivé au début, bien, c'est qu'après l'accident, elle a dû être en convalescence pendant plusieurs mois.
Elle était clouée au lit.
Était zéro mobile. Elle ne pouvait pas bouger. Elle était cassée de partout. Il fallait qu'elle porte un corset. Bref, elle a beaucoup souffert. Puis pendant qu'elle était au lit, sa mère lui avait donné un chevalet en cadeau pour comme passer le temps. Et aussi un miroir au plafond vis-à-vis de son lit. Pour qu'elle puisse se voir. Puis c'est ce qui fait que elle a commencé avec beaucoup d'autoportraits.
Exact.
Puis dans ces autoportraits, elle s'amusait à comme s'inventer un univers, mais un univers qui vient de son intériorité principalement. Donc de toutes ses blessures internes, exactement. Puis bon, comme elle était longtemps alitée, elle a comme passé beaucoup de temps à réfléchir sur elle-même. Et elle a comme continué ça dans les années qui ont suivi aussi. Après, on parle de tous les symboles, de toute l'iconographie qui est inclus dans ces toiles, les animaux, la végétation, les fruits, la nourriture, la mort.
La culture mexicaine.
Tout ce qui est les traditions mexicaines, qui n'étaient pas nécessairement de la pop culture. Pour elle, c'était plus vraiment un retour aux sources, un retour aux traditions. Elle a beaucoup poussé ça toute sa vie aussi, notamment avec ce qu'elle portait comme vêtements.
Exact.
Elle était flamboyante dans les soirées. Elle portait des robes traditionnelles mexicaines dans les années 30, 40, 50, alors que c'était pas tellement ça que les gens, le commun des mortels ne portait pas ces vêtements-là. Donc, c'est ça. Donc, c'est une exposition qu'on apprend vraiment, on apprend beaucoup sur elle, mais on ne voit pas d'œuvre de Frida Kahlo dans l'exposition.
Okay, okay.
Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que, bon, on peut voir ses œuvres facilement, on peut les trouver.
Ils sont accessibles.
C'est devenu aussi une icône en soi. Donc, aujourd'hui, on peut facilement trouver des objets.
Surtout, on en voit ici sur des petites sacoches, des porte-clés.
Des porte-clés, des
t-shirts,
des tasses,
pour les enfants, des tasses, name it.
Frida Kahlo.
Moi, je pense qu'elle a dépassé Diego en termes de popularité ou de reconnaissance peut-être de son art, mais je veux dire, qui n'a pas vu le visage de Frida avec des tresses, deux lulus, les sourcils qui se touchent, des fois une petite moustache, tout ça, je veux dire, c'est partout. Là. Peut-être pas au Québec, là, mais quand tu vas au Mexique, là, c'est le Che Guevara du Mexique. Là.
C'est comme un incontournable de la culture mexicaine. Là.
C'est un trademark, c'est une marque de commerce presque.
Exactement.
Tu mets quelque chose avec Frida Kahlo sur une tasse, puis ça se vend.
Donc, en résumé, l'expo, il y a 7 espaces de projection 360. Et il y a aussi un bonus qui est optionnel, mais donc on peut payer un peu plus cher pour voir ce morceau-là de l'expo qui n'est pas...
Tu m'intrigues, c'est quoi?
C'est une partie en réalité virtuelle.
OK.
Donc, on met un casque. On est assis sur une chaise pivotante. On met un casque virtuel avec des écouteurs. Donc là, il y a une projection. Il y a comme un petit court-métrage en VR, là, 360. J'en dis pas plus. Il faut le voir. Ça vaut la peine.
Ça vaut-tu la peine, cette partie-là? Ouais. Ouais.
Moi, je pense que... Ben, tu sais, ouais, parce que le VR, ben, c'est quand même le fun. Il y a une partie 360. C'est vraiment... Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toutes des installations, des travaux multimédia pour l'expo. Donc, c'est, en gros, c'est ça qu'on va voir.
Ouais.
Le bonus, c'est qu'on donne plein d'informations sur sa vie, mais en gros, c'est ça. C'est, ça se résume à des installations multimédia. Là, donc, le VR en fait partie.
D'accord. Et un gros trip visuel.
Ouais, vraiment. C'est ça. Ouais, vraiment visuel et auditif. Bon, l'exposition dure jusqu'en octobre. Non, jusqu'au 5 septembre.
Oh, OK.
À l'Arsenal, à Montréal. Et si j'ai bien compris, là, j'ai pas d'infos sous la main, mais je pense que c'est comme la première nord-américaine. Et c'est vraiment une expo officielle là, de la corporation Frida Kahlo. Donc, tu sais, ça vient pas de Montréal. Okay. Ça vient d'extérieur. Et
c'est pas Nelson puis Marc-André qui ont parti ça dans leur garage parce qu'ils ont, un trip de Frida Kahlo.
Non, c'est comme vraiment une expo officielle. C'est interactif, ça vaut la peine. C'est vraiment bien, c'est très coloré, il y a de la musique. Donc, on prévoit un bon 2 heures pour tout faire le tour. Et ouais.
Est-ce qu'on emmène les enfants?
Vraiment... Oui, les enfants pourraient c'est quand même... les enfants qui peuvent lire, je te dirais, c'est peut-être plus intéressant. Mais moi, sincèrement, 10 ans et plus, sans problème.
OK.
Oui, vraiment. Ben, j'ai vu des enfants, d'ailleurs, qui étaient là. Okay. C'est vrai. Mais même les plus jeunes peuvent trouver leur compte parce que il y a de l'espace. Quand on achète son billet, on achète une plage horaire aussi pour pas avoir... Donc, ils contrôlent la foule de cette façon-là.
Oui, oui.
Pas qu'il y ait trop d'affluence en même temps. Donc, j'ai vu des enfants courir un peu partout aussi.
Okay.
Puis, c'était quand même amusant. Ouais.
Bon, ben, c'est une très belle recommandation. Tu me donnes le goût d'y aller. Moi, j'aurais pas le choix. J'ai des obligations mexicaines dans ma vie que je veuille ou non, je vais y aller. Sinon, machete va sortir.
C'est sûr que le seul bémol, c'est vraiment pour les gens. Si vous connaissez déjà Frida Kahlo, vous avez vu un de ses films. Je pense qu'il y a un film avec Salma Hayek, mais je pense qu'il y en a peut-être un autre. Je sais pas.
C'est cool.
Si vous avez vu un de ses films récemment, vous n'allez peut-être pas apprendre grand-chose. Okay? Mais il faut aller là dans la tête que, on va en apprendre un peu sur sa vie, mais on va aussi voir des installations multimédia qui représentent.
C'est pour
sa
l'expérience
aussi.
C'est pour la sensation d'être là.
Exactement.
Tous nos sens sont attaqués par le son, l'image.
C'est ça, exactement.
Okay. Cette salle-là, moi, je ne la connaissais pas.
C'est une grosse salle. C'est aussi un endroit où il y a des conventums. Donc, c'est pas juste une galerie d'art. Là.
Okay.
C'est une très grande galerie d'art, dans le sens que c'est grand, l'espace. Okay. C'est sur le bord du canal Lachine.
C'est comme une ancienne usine désaffectée, quelque chose de même.
Quelque chose comme ça. C'est très moderne, là. C'est très beau. Et c'est sur le bord du canal Lachine. L'été, des fois, ils font des parties là-bas. C'est assez impressionnant. Donc, ça vaut la peine. Ben, en fait, je dis ça parce que en même temps que l'exposition, en fait, quand je suis allé, il y avait aussi une soirée mondaine organisée par, je crois, la télésérie Bridgerton. Donc, c'est une télésérie à succès sur Netflix de l'époque victorienne, comme un peu avec beaucoup des anachronismes volontaires, là, dans le sens que il y a des gens de couleur partout, alors qu'à cette époque-là, c'était pas comme ça. Puis il y a de la musique actuelle, je pense, dans l'émission.
Les gens portent des montres.
Genre presque.
Ouais.
Puis là, il y avait une soirée Bridgerton organisée ce soir-là quand je suis
allé à
l'Arsenal, dans une salle séparée.
Ah, OK.
Puis il y avait, donc là, nous, on arrive là, puis il y a plein de gens à l'entrée avec des grandes robes de bal.
Ah, style victorienne à froufrou.
Puis on comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Puis là, on regarde sur le côté, on voit qu'il y a une autre entrée, puis qu'il y avait cet événement-là aussi, cette soirée-là.
Est-ce que vous êtes faufilé? Est-ce que tu t'es
déguisé? Non.
Mis un loup devant le visage, puis faire à la Eyes Wide Shut.
J'avais presque envie d'y aller, mais on avait quand même l'expo Frida à aller voir, mais... ma copine, elle écoute cette émission-là, puis elle m'a tout expliqué ça. Puis que c'est un truc qui se passe un peu partout dans le monde. Donc, dans plusieurs pays, là, il y a des soirées Bridgerton.
Ouais.
Des soirées comme ça, où tu t'achètes ton billet, tu t'habilles chic, comme de cette époque-là, puis il y a comme un genre de reconstitution du bal de la reine.
Fait que si je comprends bien, toi, tu es allé voir l'exposition tout seul, puis t'as pas est allé de l'autre bord voir
ouais.
Groupie de la série est allé l'autre
bord. Je pense que ça est tenté un peu.
Ça est tenté, ça a travaillé.
Effectivement.
OK.
Ouais, avoir su, mais on le savait pas. Ça nous a vraiment surpris qu'on est arrivé à l'Arsenal. Mais sinon, ben ça, c'était une journée. C'est
j'aurais fini. Préféré que tu me dises qu'il y avait un bal masqué ou qu'il y avait comme la fête des morts, puis il y avait des gens qui étaient déguisés en coco ou en The Book of Life ou whatever.
Ça, ça aurait été, ça aurait été cool. Un extra très cool.
Ouais.
Ça aurait... Écoute, t'as l'idée, Marc-André.
Ouais, j'appars. C'est moi qui ai le copyright. J'ai les droits d'auteur.
On lance ça dans l'univers.
Mais non, je veux... Ouais, on lance ça dans l'univers, mais... Je me dissocie de Coco et de Book of Life un peu moins, mais je veux remettre la fête des morts un peu plus traditionnelle, un peu plus vraie que ce qu'ils en ont fait.
Ben, c'est sûr, c'est une tradition de là-bas.
Ouais, qui... c'est respecter les des traditions qui sont... c'est quand même un rite de passage, c'est quand même la mort, tout ça, je veux dire, c'est pas... C'est pas une joke commerciale comme une annonce.
Ce qui est repris, c'est que eux ça se passe le 1er novembre, alors que nous, c'est l'Halloween la veille.
Exactement. Et donc, Samhain, là, le 31 octobre, ouais, exactement.
Il y a beaucoup de gens qui reprennent ça, donc, pour l'Halloween.
Mais au Mexique, les fêtes sont en train de se mélanger, se blender.
C'est vrai?
Oui. Parce que j'ai des amis qui fêtent. J'étais là un moment. Ben, j'étais allé deux fois à cette période-là, mais on a fêté une fois l'Halloween. Puis là, c'est comme, comme ici ou comme dans les films nord-américains. Je veux dire, c'est le party, c'est le bordel. Tu peux être habillé en déguisant n'importe quoi. Mais la fête des morts, traditionnellement, oui, tu vas porter un chandail des Calacas. Oui, tu vas les filles ou les garçons vont être le visage blanc puis un crâne puis tout ça. Mais c'est pas une joke comme l'Halloween. Puis l'Halloween, ça fait pas si longtemps que c'est rentré dans certains milieux, dans des gens qui ont voyagé ou qui sont peut-être plus américanisés ou tout ça.
Les gens qui ont des familles aussi.
Oui, exactement, aux États.
Ouais, ben oui, donc la fête des morts, effectivement, c'est une super belle tradition.
Ça, on va vous en parler au mois de novembre. Préparez-vous, on va vous parler d'Halloween.
Oui.
On va vous faire jouer de la musique d'Halloween. On vous le dit d'avance, on est l'été, mais nous autres, ça, c'est comme notre Noël. Nous autres, c'est le Halloween ou le Dia de los Muertos des campeurs. Là, c'est right now.
C'est aujourd'hui que ça
se passe. C'est aujourd'hui.
Puis on écoute du George Thorogood.
Oui, c'est ça, rock and roll, ça n'a aucun rapport. Mais là, on va y aller en musique. On va y aller en musique avec une fille qui est pas mal rock and roll. Vous allez voir ça, les Bell Rays.
Just like a killer with a gun. I'm CKUT 90.3 FM in Montreal. No boundaries. Feel alive.
Nous sommes de retour au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Avant la pause, on écoutait une pièce du groupe The Bell Rays
sur l'album Let It Blast. Et on est dans une thématique blues, fait que c'était The Blues for Godzilla.
Blues for Godzilla.
Yeah.
Et Marc-André, moi, je connaissais pas ce groupe-là avant aujourd'hui. Moi The Bell Rays, c'est la première fois que j'entends ça.
Moi non plus.
Toi non plus, tu... Ah, ben c'est le fun parce que.
Je fais des affaires que je connais pas.
On découvre des choses ensemble.
Ouais, c'est ça. Ils sont venus à Montréal. J'ai vu ça sur un Facebook de tripeux de musique rock. Puis je serais été les voir. Moi, j'ai découvert ça grâce à mon cousin sur l'île de Vancouver. Et il y en avait. Puis lui, je pense qu'ils avaient déjà vu. Puis j'ai deux ou trois albums d'eux. Et celui-là, ben, je pense que c'est comme le premier. En tout cas, il est raw, il est garage. Il y a un côté que tu disais, on dirait qu'il est presque live ou que c'est enregistré à peu près dans
ça sonne live.
Ça sonne live, mais c'est le fun. Elle me fait penser bien gros au côté raw de Tracy Biddle qui jouait dans Five Line Legacy. Ou un peu le côté bluesy, peut-être pas sur cette pièce-là, mais de Dawn Tyler Watson, là, notre québécoise blueswoman. Fait qu'un côté blues raw, des femmes là, de rock and roll, là, presque on recule jusqu'à Nanette Workman, là, un côté raw, une voix rauque, là, une voix la sœur de Lulu Hughes.
Lulu Hughes.
Ouais, merci. Merci. Your English is better than El Mio.
Yes, today.
Yes, so that's what I'm saying. So it's she's got the perfect voice for me.
The Bell Rays.
Ouais, The Bell Rays. Fait qu'écoutez ça. Je sais pas s'il y a un lien avec Vancouver, mais les premières fois que j'avais été à Vancouver, ils trippaient fort sur eux autres. Je sais pas s'ils allaient... Tu sais, admettons, s'ils sont à Seattle, ils montent à Vancouver, je sais pas.
De la côte ouest, peut-être?
Ouais. Mais je sais qu'ils sont de... Je sais que le label Vital Jester Records, V Records, sont à Los Angeles. Fait qu'ils viennent peut-être de Los Angeles.
Bon.
Qui sait, faites vos recherches. On va pas vous donner tout cuit dans la bouche comme les petits oiseaux qu'on entend ici le matin qui nourrissent leurs petits oisillons.
C'est bon.
Message d'intérêt public. Hey, en parlant de choses rock and roll, faut que je parle de bande dessinée, ce que j'adore le plus après la musique et les films, c'est MFK 2.
MFK
2. Sur le label 619 label.
Encore, hey, ça m'a fait-tu des chiffres? La semaine passée, on a parlé de Frank Lee, la bande dessinée sur Alcatraz.
Un one-shot. Et là, j'ai le premier de MFK. Excusez, là.
C'est pas le premier, c'est le deuxième.
Non, mais regarde, c'est ça qui est bizarre. MFK 2, c'est peut-être le nom du, tu sais, puis c'est tome 1, 2, 3. Fait que c'est un trio, c'est une trilogie. C'est un...
Il y a comme trop de chiffres là-dedans. Là. Ouais, fait que le label, 619, le titre, c'est MFK 2, ouais, et c'est le tome 1, 2, 3.
1, 2, 3. Fait que MFK label, c'est écrit par Ron. Ron, c'est le grand Manitou derrière des bandes dessinées que j'ai déjà parlé, les fameux Doggy Bags. Je sais pas si tu te souviens de ça. C'est des bandes dessinées. Admettons, il y a une thématique sur. Il pourrait avoir Dia de los Muertos. Fait qu'il y a trois artistes, trois scénaristes qui pondent trois œuvres. Ils regroupent ça ensemble dans une bande dessinée qui est un peu molle. Tu sais, comme cartoon. Bande dessinée américaine, comic book, merci. Et là, ce que j'entre les mains, c'est vraiment plus une bande dessinée, hardcover. Écoutez, gars. Hein? C'est dur comme la roche.
Ouch.
Et là, le lien aussi avec la fête des morts, c'est que les deux personnages, il y a un personnage qui est comme un petit peu un alien, un petit peu extraterrestre, et un personnage qui est quoi, Nelson? Tout en blanc, avec des dents, des yeux jaunes.
Un petit squelette.
Ben oui. Les deux héros de ça. MFK, je vais dire c'est quoi? C'est Motherfucker.
Oh, pas là.
Excusez.
Oups.
On le dit entre guillemets, fait que ça ne compte pas, ne faites pas de plainte. Et là, je trouve la bande dessinée et tu sais où est-ce que dans Tintin, là, tu as tous les portraits en blanc et bleu de tous les personnages, Capitaine Haddock, Tournesol, name it. Ben là, tu as toutes les armes que nos deux héros vont utiliser.
Les armes?
Des armes, oui. C'est des... Ils n'ont pas le choix de s'armer parce qu'il y a du monde à leur trousse.
Mais là, je vois, donc c'est comme dans l'endo de la page couverture, là. C'est comme
ouais.
la tapisserie. Là.
Ouais,
la tapisserie. Il y a aussi un logo de Slush Poppy.
Oui, Slush Poppy, mais lui, c'est Slash Poppy.
Oh, pelle.
Fait que pour ne pas se faire actionner, lui, c'est le même chien avec un S qui dégouline, mais à la place d'avoir une Slush Poppy des mains, il y a quelque chose qui pique. On ne sait pas c'est quoi, mais ça doit faire mal. Fait que, en gros, c'est ça, c'est Ron, là, comme je disais, là, c'est lui qui dessine, qui fait les scénarios. Il aime bien ça jouer avec qu'est-ce qui est unpolitically correct. Déjà, son petit comic book authority, c'est disapproved by the comic code authority.
Ouais.
Tu sais, c'est comme, ça, c'est comme sur les 10, là, c'était langage explicite, faites attention, avertissement. Lui, il fait un avertissement que ce que vous allez voir, c'est sûr que c'est pas
approuvé par les
comics.
La tradition des comic books américains.
Oui.
Mais fin... juste parenthèse,
oui.
La petite étampe que tu fais mention qui est sur la couverture du livre,
oui.
qui est-ce que c'est quelque chose qui est encore actuel sur les comic books américains?
Oui, 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 oui. Okay. Ben, ça existe, mais le monde, c'est dans la musique, on avait déjà parlé, je pense, ou je vais en parler. C'est que ça en fait vendre plus. Quand tu marques explicit lyrics, tu le mets sur le chose, les jeunes, que ce soit du metal, du rap, nous disons, hey, on va l'acheter, ça va être bien meilleur que clean. Mais il n'y avait pas clean dans ce temps-là. Mais
qu'il n'y avait pas l'étiquette explicit lyrics.
Ça. Fait que là, je pense, lui il se fout de toutes les codes.
C'est ça, c'est comme une parodie.
C'est comme une parodie du comic américain qu'il ne fallait pas mettre entre les mains de n'importe qui parce que c'est gory, c'est slash. C'est violent. Il y a beaucoup de racatac-tac, pow-pow, t'es mort, tout ça.
Boum, chica-boum.
Boum, boum, chica-boum, comme dirait Jérôme 50.
Oui!
Et c'est ça. Et il y a souvent, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il y a souvent des annonces entre deux pages de parodies de qu'est-ce que les Américains vendent. C'est des Français, hein, tu sais, l'auteur puis le label, c'est français, mais ils ont une aversion et en même temps...
Fascination,
les deux, merci, pour la culture américaine.
Oui, ben oui, parce que là, vraiment, visuellement, c'est vraiment comme un comic book, là, des personnages très...
Cartoonesque.
Des gros yeux, des grosses têtes, des petits membres, puis, tu sais, du décor très fantastique, là, un peu, là, mais en même temps, c'est ça, là, ça fait très... je sais pas là à quoi ça fait penser, là, Teenage Mutant...
Oui, il y a un petit côté-là. Ils se promènent en Winnebago avec le prix encore, un autre chiffre. Ils ont payé 3 999, un vieux Winnebago, un peu comme dans Breaking Bad. Tout scrap, tout crotté. Les gars sont fauchés, ils se font courir après par une espèce. Je ne veux pas dire trop d'affaires sur le scénario parce que ça part dans tous les côtés. Il y a une triade, ça commence avec une triade japonaise. Qui sont à leur trousse parce qu'un de nos personnages travaille dans un restaurant comme livreur de sushi. Et là, il y a des complotistes. Après ça, il y a des extraterrestres. C'est très mystérieux, mais c'est très accrocheur. Puis Ron m'a jamais déçu avec son label, très rarement. Et une dernière chose, c'est que maintenant, ils font des livres d'art. Admettons, si c'est un graph artiste, ils vont faire la promotion de monde qui font de l'art plus underground puis tout ça. Mais à l'endo, ils marquent Art and Design Comic Books. L'anglais, eux autres, sont très fascinés par ça. Et là, ils ont fait des logos à l'endo du livre. Violence, c'est un point américain. Langage grossier, c'est le fameux finger. Nudité, c'est la pêche et la courgette.
Okay.
Discrimination, c'est un peu bizarre. On dirait que c'est deux Batman avec un autre personnage dans le milieu. La désinformation, il triple là-dessus. C'est un cellulaire avec l'espèce de...
Omega.
Et tu vois ça, dérive sectaire, pardon. Je m'en dis spectaculaire parce que la bande dessinée est spectaculaire et ultra...
Ultra crépidarianisme.
OK. Fait que si quelqu'un sait c'est quoi, nous, on le sait pas.
Crépidarianisme.
Fait que ça, c'est pas un one-shot, c'est un de trois. J'ai lu le premier. J'attends les deux et le trois avec impatience. Très intéressant. Je te le passe à l'instant entre tes mains.
C'est vraiment un coup de poing. C'est dans ta face. C'est violent. C'est gore.
Ouais. Ton gars aimerait ça, mais ce n'est pas pour lui. Moi, je dirais que c'est pour un public de 15-16 ans et plus. Parce que c'est rock'n'roll. Il y a beaucoup de références à l'histoire, mais à la pop culture. Puis il y a des clins d'œil, tu sais, à toutes les sectes, puis les espèces de... Tu sais, un peu le monde qui habite dans des trailer parks. Il y a une culture du white trash, des sudistes, la culture du van life, Wannabago life. Tout ça.
C'est comme un road trip?
Oui, c'est un road trip parce qu'il essaie de s'échapper d'une triade mexicaine. Triade japonaise
Des Yakuza?
De Yakuza style. Et là, il y a aussi l'espèce de... Tu sais, le fameux Hangar 18, là, comme dans Megadeth, là, une espèce d'endroit tenu secret par les militaires dans un désert au Nevada, où est-ce que il y aurait des expériences sur la présence des extraterrestres. Fait qu'il y a beaucoup là, l'ambiance, on a peur, le complotisme, les extraterrestres, on va aller se cacher à Las Vegas, on va passer incognito, mais... Vont-ils se rendre à Las Vegas? C'est ce que nous serons dans les prochaines aventures de MFK.
C'est très cool. Run. Vraiment, c'est très...
Visuellement, c'est...
Mon garçon, il dirait, c'est très stylé.
Très stylé. Ben, il a raison, ton garçon.
Ouais.
Je donne deux morceaux de robot.
Très original.
Tu rapporteras deux têtes de robot.
Et l'artiste, ça s'appelle Run, R-U-N.
Oui, comme un gars qui court.
OK, j'avais compris Run comme dans Run Fournier.
Ah, OK. Ou Run Jeremy, mais c'est vraiment Run.
Run comme R-U-N.
Est-ce qu'on continue en musique? On a-tu des choses à dire?
On peut continuer en musique, Marc-André?
Oui.
Ben, je pense que oui. Ben on a-tu d'autres musiques préparées?
Ben oui. On y va en musique, tout en douceur. Nomadic Massive, Representando Montréal.
I'm toyless, but on quest. My chest will progress, then my crest, I'm forward, your highness. Heavy back to drag, truth's hard to grab. We act smart in the dark while we stand and bleed for shots, yeah. Perfect my appetite, it doesn't come to light. Like a bass, yes, I'm upright, just like the moon, I'm late night. A modern day hippie, futuristic gypsy. Melodies are friend and made this remedies for dipsy. Try this on my good concession, so bring a plate. And a day, got face to face, bring peace, so don't debate. Hey, pleasant chapters of my life, keeps I sleep, they pay the price. Intuition's like the knife, this passive flight, outside of sight. Whoa! My flow's froze like a metronome. Chrome to the bone, that's why my mic remain my third light. Bright and light, just soul essence. My strength goes just by the iron. We are the pas des pouvoirs, pour ça y aurait les mounes poids, le monde monde, pas de vieux songer, que des gémons, démons, pour le moment, des gains, mais mettre à temps la volée, nous pas de bon place, parce que nous restons pour l'homme, nous dans la paix, nous toujours et des couets, nous gardons tout malin, malédiction à l'eau, vous sort, nous en tirer trop souffrance, nous pas fait faire une force à croyance, le coup est être nous, à ton d'argent, son pays, nous, y'a pas empoisonné nous, pas besoin de mais nous, à nous concentrer sur un monde, nous n'en bataille, pas qu'à la bouchaille, obsession c'est la caille. Pour acheter ma vie à 100 failles, on est une fois que ça, tout
petit monde sans cette eau là. Ça, c'est pour toi qu'on représente.
We are the ruler.
Bad man, we
are the ruler.
اخوك يموت روح بوك بالكامل بلا فلوس لتعامل
شوف
بندقية بالداش بول نجامل هاك المفتاح خايف من صوت القنابل وترى والله مو قلت صرت رجل وردت تفجر باسم ربك الذي خلق ومحجر الحزب سوق ودوس الله يرحمك ابن طفولة ابي صورة نبي موسى هبي ثاني يوم الملا قال لي علي فلوس عندي يلا روح صلي على روح اسمعني صاحبي والله ولا حركة صاحبي بركة وبابا has to kiss the image مشتاق الحسة يغسل جثة جلد فتح باب بيته ابن خلال فلوس كتب عليها باباتي الحياة ما تسوى فيلم
Vous êtes de retour sur les ondes de CKUT 90,3 FM. C'est le lendemain de la veille. On vient d'écouter une pièce de Nomadic Massive
de Montréal. 514 in la casa.
Comme le dit Marc-André.
Si bien. Et oui, Nomadic Massive, c'est, moi je trouve que c'est le groupe parfait que tu peux faire écouter un ami qui vient pas de Montréal ou du Québec, puis tu te dis, regarde, c'est Montréal, t'as espagnol, portugais, arabe, créole, name it. Ça passe du hip-hop au blues, au funk, au jazz. Je pense que c'est le band le plus exportable pour Montréal. Et ça, c'était leur premier album, Nomadic Massive. Il y en a trois, à ma connaissance. Ça, c'est le premier que j'ai en main. Et les premiers albums de chaque artiste, c'est là que je pense qu'ils font leur preuve. Des fois, la production était... cet album-là, la production est sacoche, mais l'essence là, de qu'est-ce qui va venir... Là, c'est gars, Ozo Matli, même affaire, le premier album, c'est là que ça part. Puis là... Fait quoi dire? Moi, ça groove. Cet album-là, tu l'écoutes de A à Z, super bon. La pochette est super cool. Nomadic Massive est écrit en pixation comme le lettrage graph de Sao Paulo, du Brésil. Et là, tu as une petite van style européenne qui est taguée avec des espèces de gros haut-parleurs sur le toit. Le graphique est super. Puis c'est tout simplement Nomadic Massive, Nomadic Massive. C'est un collectif. Hein, il y a Lou Pensa. Il y en a beaucoup. Et il y en a un qui va être en solo à une salle qu'on a redécouvert cet été.
Oui.
Tu peux en parler.
Donc, c'est le Théâtre de Verdure qui est situé au Parc La Fontaine. Donc, c'est une super salle extérieure.
Oui.
Qui était fermé pendant plusieurs années, là, je ne sais pas combien de temps exactement,
pour
les travaux majeurs. Puis bon, c'est enfin réouvert depuis l'été 2022. Et on a vu un spectacle, vu qu'on en parle.
Ben oui, ben oui. Par exemple, moi, je veux juste dire que Vox Ambou, un des MC, des chanteurs du groupe, avec son projet Héritage, va être le 5 août à 20h30 à cet espace-là.
Au Théâtre de Verdure.
Oui.
Ce qui est formidable, c'est que c'est un théâtre extérieur.
Oui.
Dans le parc, dans le parc La Fontaine.
Oui.
Et qui est gratuit. Donc,
oui.
La programmation estivale 2022, elle est entièrement gratuite. Premier arrivé, premier servi, mais il y a quand même beaucoup de place.
Exactement. On était très surpris parce que on est allé voir Jérôme 50 et on pensait que Jérôme 50, il y a quand même deux gros hits qui ont cartonné à la radio. Et on était sûr qu'il allait avoir un public jeune. en grand nombre. Et on est arrivé un peu d'avance et il y avait de la place. Deux bonnes choses, c'est gratuit. Autre chose, vous pouvez emmener votre propre nourriture, vous pouvez emmener vos enfants. On n'a pas vu d'animaux, mais vous pouvez emmener, tu sais, c'est accessible aux 7 à 77 ans. Et on peut même emmener un petit breuvage alcoolisé, si vous le souhaitez. Fait que j'étais vraiment surpris. C'est vraiment friendly. C'est vraiment comme les parcs devraient être. Il n'y a pas eu de débordement. Puis tout ça. C'était bien le fun. C'était bien agréable.
C'est super agréable. La scène est super belle.
Le son est bon.
Grosse scène qui a une bonne profondeur. Moi, j'ai des souvenirs lointains d'avoir vu des spectacles de danse. Il y a jadis naguère sur cette scène-là. Et ce qui est particulier, bien, c'est que, bien, comme à l'époque, là, c'est la scène n'a pas vraiment changé. Bien, c'est sûr que là, elle est toute moderne, mais elle est comme dans l'étang du parc La Fontaine. Là. Donc, ouais, il y a comme un petit cours d'eau entre...
La swamp.
Il y a la swamp entre la scène et la foule.
La première rangée.
Les estrades. Ouais. Donc,
ne tombez pas dedans. Si
oui, il y a ça aussi qu'il faut noter.
Il n'y a pas de...
Il y a moyen de tomber facilement dans l'eau.
Il n'y a pas de garde-fou. Là.
Non, exactement.
On peut perdre le pied.
On peut facilement perdre le pied.
On veut aller faire du stage diving, mais il faut nager jusqu'à la scène.
Donc, c'est peut-être le seul bémol, mais en même temps, c'est pas un bémol. Ça fait partie du décor. Tu sais, c'est vraiment beau. Donc, il y a quand même une distance entre la scène et la foule. Mais sinon, c'est bravo. C'est vraiment une super réalisation. Là.
Il faut l'exploiter au maximum. Ben, il faut qu'il y ait tous les styles de musique. Puis, ben, on a vu Jérôme 50 qui était... On peut en parler deux secondes. C'était vraiment agréable. On s'attendait à rien. Puis, on était agréablement surpris. Son spectacle tournait autour d'un espèce de camp de...
Camp de vacances,
avec chaque musicien avait un nom farfelu de moniteur ou de monitrice.
Exact.
Et c'était très sympathique. Ils ont chacun fait un solo. Il est très bout en train. Il est très sympathique. Ça me fait penser, même si c'est pas le même genre, un peu à Émile Bilodeau. Il y a comme un petit côté rassembleur, raconteur. Il est fort dans les anecdotes.
Dans les textes de ses chansons, effectivement.
Aussi, c'est comme une histoire, c'est du storytelling un peu.
Puis on a été super bien servi dans le sens que le spectacle, il y avait son band, il y avait des musiciens et musiciennes invités.
Oui.
Il y avait une petite mini chorale invitée.
Oui, des enfants de à peu près 7, 10, 12 ans qui reprenaient comme en comptine les chansons. De camp ou de tu sais, de...
Les classiques de Kanjo, Boom Achikaboom, O Ursule, là, je ne m'en souviens plus des autres, là, name it, mais c'est... Moi, j'ai vraiment l'impression que ce chanteur-là, il était...
J'étais moniteur dans l'autre vie,
parce que, clairement... Ben, c'est qu'en fait, c'est qu'il reprend des chansons de Kanjo, mais il les modifie un peu, là. La mélodie, c'est la même chose.
Mais c'est drôle parce que les enfants, vu qu'ils connaissent ces paroles-là, l'accompagnent en chorale. Puis, il y a un petit côté grivois, Jérôme 50. T'sais, Jérôme 50, il y a une casquette de la BAT 50. Je ne sais pas s'il est endossé par la BAT, mais il devrait. Fait que il a du cash à faire avec
Mais lui. Il buvait de la Labatt 50 après le show. Ça,
aussi, oui. Fait qu'il est vrai, là. Il est real, là. Il doit avoir un tatou de la Labatt 50. mais c'est ça, les enfants chantaient. Puis, ce que je trouvais bien, c'est que les parents riaient parce qu'il y avait un double sens à certaines de ces phrases. Puis les enfants chantaient de façon désinvolte, sans se rendre compte des jeux de mots un petit peu grivois. C'était parfait. J'aurais aimé ça, que tes enfants, ma fille, viennent.
Ouais.
Mais on était des free men, on était des free dads. On n'était pas des Mr. Mom cette journée-là. Fait qu'on a profité. Mais honnêtement, je pense que nos enfants auraient apprécié. Il y avait un côté très drôle. Puis je pense qu'ils reprennent des chansons du nouveau Passe-Partout. C'est ce qu'ils expliquaient.
En fait, c'est ce qu'il avait expliqué. C'est qu'il avait composé une chanson pour les nouveaux Passe-Partout.
Qu'ils n'avaient pas vu.
Et que donc, ils ont chanté la chanson.
Ouais.
Une chanson sur.
Pour comment s'habiller avant l'hiver. Et puis te manquer un morceau de vêtement.
Sortir à l'hiver.
Oublie pas tes bottes.
Donc, vraiment, c'est ça. C'est comme tu l'as dit. C'est 7 et 77 ans. Dans le sens que vraiment, il y en a pour tout le monde. C'est tout le monde va aimer ça. Puis, c'est super. En jouer.
Puis on passera pas sous silence, il y avait son noyau de fans hardcore, dur, qui était heureusement ou malheureusement assis vraiment à côté de nous. Il y en avait à côté de moi et il y en avait en avant de nous deux. Et c'était des sympathiques rigolos qui connaissaient les paroles, mais
qui chantaient des fois plus fort que Jérôme 5 ans.
Jérôme 5 ans, un peu plus qu'ils volaient le show, tu sais. C'était des personnages, mais on les salue. Ça donne de l'ambiance, c'est gratuit, ben c'est ouais, un c'est festival, ça. C'est l'été. Faut en profiter, faut lâcher son fou. Fait allez voir peut-être Vox en bout le 5 août. Je sais pas, j'imagine que ça va être dans les mêmes cordes musicales que ses amis de Nomadic Massive.
Et ça sera au Théâtre de Verdure, au Parc La Fontaine.
Oui, c'est gratuit. Vous avez aucune excuse, là.
Vraiment.
À moins que vous avez une autre activité ce soir-là, mais sinon...
Non, changez vos plans. Allez au Parc La Fontaine.
100% d'accord.
Ça vaut le détour. Vous n'allez pas le regretter. C'est garanti. On vous le garantit.
Oui. Garanti.
Ou argent remis.
Ou musique remis.
Oui.
Ouais. En parlant de musique, il y a un film qui est sorti d'un drummer, un batteur aux cheveux longs et une barbe. Dis-moi combien de temps il reste.
Il reste un gros 2 minutes.
Oh,
fais ça vite,
God.
Marc-André.
OK. Bon, ben, je rentrerai pas dans l'histoire d'abord. Ça s'appelle Studio 666. Et ça met en vedette nul autre que Mr. Foo Fighter himself, Monsieur Dave Grohl. Fait que Dave Grohl s'est payé un gros trip visuel de musique. On s'en va, dans le fond, c'est le petit scénario, c'est qu'ils s'en vont, les Foo Fighters s'en vont enregistrer leur 10e album. Ils savent pas dans quel studio où aller, fait qu'ils s'en vont dans une espèce de mansion de Encino Mansion, où est-ce qu'il y aurait eu... des artistes qui sont allés enregistrer, mais qu'il y a eu des meurtres ou il y a des choses diaboliques qui se sont passées. Fait que ça, il y a un petit parallèle avec les Red Hot Chili Peppers qui avaient enregistré avec Rick Rubin à l'ancienne maison de Jimi Hendrix.
OK.
Où est-ce que, fait que moi, j'ai trouvé le parallèle. Là, je sais pas si c'était ça son trip. Et là, Mr. Foo Fighter devient possédé par de la musique qu'il trouve dans le sous-sol. Et là, l'histoire commence. Fait qu'il y a un petit côté Sam Raimi. Le côté horreur est surprenant et pas pire et gore. Il y a une couple de scènes bien ficelées.
C'est un vrai film, là.
C'est un vrai film, ouais, qui dure 1h30, qui est classé 13 ans et plus, qui est considéré un film de violence et d'horreur.
C'est réalisé par Dave Grohl ou...
Ben, Dave Grohl est dedans. C'est bonne question, là. C'est écrit petit. Regarde, si tu veux.
Je vais dire ça vite fait avant la fin de l'émission.
Avant la fin de l'émission.
Réalisé par B.J. McDonald.
Ah, on sait pas.
B.J. McDonald.
Non, le connaissons.
Et sauf erreur, il y a aussi le batteur de Foo Fighters avant sa mort.
Exactement.
Qui joue dans le film.
Oui, tous les vrais Foo Fighters sont là, dont son guitariste qui joue aussi dans Nirvana.
Donc, Studio 666, avec mettant en vedette les Foo Fighters, c'est déjà la fin de l'émission, Marc-André?
Oui.
Merci beaucoup.
Oui, bon été. Continuez à en profiter. Amusez-vous bien. On se voit prochainement. Sur les plages.
Bye-bye.
Bye-bye.
It's spreading COVID-19. It's easy. I'll wear a mask in crowded places. If I have symptoms, I'll self-isolate and do a rapid test. If I test positive, I'll stay home for at least 5 days. And for the next 5 days, I won't visit anyone who's at risk. I'll avoid social events like festivals and gatherings. And I'll limit my activities to only the most essential, all while wearing a mask and staying 2 meters away from others. The virus is still out there, so we have to be careful. A message from the gouvernement du Québec.
C'est toi qui commence.
D'accord. Tous mes amis super-héros, si vous avez à venir écouter à la radio CKIT, 4-20-10-3-3.
Award-winning Canadian singer-songwriter Francois Clark. Brand new sophomore album, Adventure Book, available now. Adventure Book is a stunningly crafted musical voyage filled with invigorating pop anthems and introspective ballads. Francois is an internationally renowned artist that has been featured in the Netflix hit film Feel the Beat, alongside artists including Demi Lovato and Alicia Cara. Listen wherever you stream music. More at FrancoisClarkwithak.com.
Living with the virus means remaining cautious. We must continue wearing a mask and washing our hands. At the first sign of symptoms, it's crucial to self-isolate and get tested. Those who have COVID-19 must respect the isolation period, since they can remain contagious for at least 10 days. Those most at risk for developing complications, either